EPRA, EPRA.
Terre fidèle qui est la plus éloignée de nous.
Le recrutement de travailleurs destinés aux usines d'armement.
Parce que si on allait chez nous, on travaille un jour, on gagnait 12,50 €. Ici, on demande à molester, on gagnait 10 €.
Sur lui, il y a une procédure d'expulsion qui est en cours.
Un objectif de reconduite à la frontière pour les clandestins augmenté encore de 50%.
EPRA, EPRA, échange de production radiophonique.
Chaque personne doit passer un test.
Émission de reportage.
J'ai rencontré quelques pathologies assez rares qui n'existent pratiquement pas en France.
On se rend compte qu'il y a quand même quelque chose d'étrange au fait qu'on n'en parle pas.
Sur Divergence FM 93.9.
Bonjour les EPRA pour résumer. Eh bien, c'est une banque de programmes radiophoniques alimentée par certaines radios associatives partout en France et RFI, Radio France Internationale. Divergence FM propose ses programmes dans des thématiques précises comme la lutte contre les discriminations, la lutte contre le racisme ou encore eh bien, des portraits d'artistes qui œuvrent pour la diversité culturelle ou bien encore la solidarité et des reportages sur la politique de la ville. Alors dans cette émission, vous écoutez les reportages que nous envoyons à l'EPRA et qui sont ensuite diffusés partout en France, ainsi que les reportages envoyés par les autres radios adhérentes du réseau. Alors depuis quelque temps, l'EPRA, financé par l'ACCÉ, Agence de Cohésion Sociale pour l'Égalité des Chances, ça fait beaucoup de sigles, oriente davantage ses émissions sur le thème de la politique de la ville. Alors j'avoue très honnêtement que je préfère encore faire des sujets avec des artistes, et pour pallier à mon déficit d'émissions sur cette thématique, eh bien, j'ai choisi de vous faire écouter un documentaire préparé par Jean-Louis Riwal de Radio Oxygène qui va revenir avec Claude Chaline qui vient de publier un Que sais-je sur les politiques de la ville. Eh bien, ils vont revenir sur l'histoire de la politique de la ville de 45 à nos jours. Donc la politique de la ville, c'est un peu où les gens vivent.
Dans les années 50 et 60, lorsque les populations urbaines se sont développées à très grande vitesse, les gouvernements de l'époque, pleins de bonnes intentions, ont dit qu'il faut répondre à la crise du logement, éviter les formations de bidonvilles autour de Paris, de Marseille, de Lyon. Et on a construit en grande hâte, en périphérie urbaine, les grands ensembles.
Et certains de ces grands ensembles existent toujours. Alors le deuxième sujet sera plus léger, quoique nous reviendrons sur le festival Itinérance d'Alès qui s'est déroulé ce mois de mars et qui avait pour thématique le nomadisme. Alors invité de ce festival, eh bien, Tony Gatliff, à l'occasion de la sortie de Liberté, son dernier long métrage, qui revient sur l'histoire des Roms en France sous l'occupation. Alors comme j'ai déjà diffusé un sujet sur Gatliff que j'avais préparé à l'occasion de sa venue à Montpellier, eh bien là nous irons un peu plus loin grâce à Cathy Rouvérol et Yves Defago de Radio Grille Ouverte à Alès qui ont capté une rencontre organisée entre Gatliff, Luis Ruiz, écrivain, photographe et slammer de la communauté gitane alésienne, et Esmeralda Romanes de l'AMID, l'association pour la mémoire de l'internement et de la déportation.
Moi je suis moins rouge parce que dans le ventre de ma mère, je le savais, j'étais habituée au bruit des sabots, au roulement des roues, de la roulotte. Moi j'ai roulé 46 ans en roulotte hippomobile hein, quand même. J'ai élevé 7 enfants sur le voyage.
Histoire et émotion, thématique de cette émission aujourd'hui, et émotion encore avec Kaïmi Kari.
Allô, tu m'entends? C'est moi, Kaïmi Kari. Je t'aime, je t'attends. Et je m'en ai à Paris. Et toi, tu m'oublies. Si tu as un quota petite chérie, j'ai bu la tour Eiffel et les quais de la Seine. J'ai pris le métro pour le Trocadéro. Mais sans toi, c'était pas rigolo. Alors tu m'entends? Ah non, moi je n'entends rien. Et c'est Karine qui t'attend et qui s'ennuie à Berlin. Et toi tu m'oublies. Si je suis encore ta petite amie, j'ai fait tout shopping à Mitte avec Tim. J'ai pris le vin pour le coffee stand. Mais sans toi, c'était pas rigolo. Alors tu m'entends? C'est ma Karimi Karimi. Je t'aime, tu t'attends. Hégémonie à Paris, à Berlin, à London, à Vienne et à Rimini, à New York, Singapour. Et toi, dis-moi, tu m'aimes toujours. Demain, je prends l'avion, mais c'est pour Tokyo. Feras-tu la halo? Allô? Allô? Merde, ils sont coupés. Sans toi, ce serait pas rigolo. Mais toi, seras-tu là? Allô? Allô? Tu m'entends? Iskahim Kari. Allô? Allô?
Elle n'a pas fait de suite à ce morceau. Kaimi Kari au téléphone, une manière légère hein, de débuter cette émission avant de retrouver donc eh bien, le premier sujet préparé par Radio Oxygène. Un petit retour sur l'histoire de la politique de la ville de 45 à nos jours. Et je crois que l'émission s'appelle Mais où est donc Ornicard ? Ne vous inquiétez pas.
Mais où est donc Ornicard ? Une émission proposée et présentée par Jean-Louis Riwal.
Il faut reconnaître que les architectes urbanistes français des années 50 étaient plus ou moins inspirés par les modèles soviétiques. Il fallait de l'habitat collectif massif, des grands immeubles.
Aujourd'hui, une histoire des politiques de la ville, première partie.
Et on a par conséquent procédé en un premier temps à ces réalisations. On a logé des ruraux ou des citadins qui cherchaient des logements, mais très vite, ces populations qui appartenaient à des petites classes moyennes se sont enrichies en faveur de la période des Trente Glorieuses. Ils sont partis achetant à crédit en général des maisons individuelles en périurbain ou dans le rural, et les vides ont été peu à peu comblés par des populations beaucoup plus modestes, souvent venues de l'étranger.
Claude Chaline est professeur émérite à l'Institut d'urbanisme de Paris. Il y enseigne l'aménagement urbain. Depuis plus de 30 ans, il est un observateur privilégié des politiques de la ville en France, dont c'est une spécialité, mais aussi il a un regard global sur le développement des villes occidentales et notamment en Grande-Bretagne, où il a vécu pendant une vingtaine d'années. Pédagogue, il vient de publier dans la collection Que sais-je, aux presses universitaires de France, les politiques de la ville. Claude Chaline.
Bon, les politiques de la ville, c'est une spécificité française, gouvernée par l'État depuis 30 ou 40 ans. Je dois reconnaître que j'ai une expérience internationale ayant passé 20 ans de ma carrière en Grande-Bretagne, où les problèmes urbains ne sont pas non plus très très simples, mais la politique de la ville française dérive d'une chose qui est parfaitement connue, c'est que dans les années 50 et 60, lorsque les populations urbaines se sont développées à très grande vitesse, les gouvernements de l'époque, pleins de bonnes intentions, ont dit qu'il faut répondre à la crise du logement, éviter les formation de bidonvilles autour de Paris, de Marseille, de Lyon, et on a construit en grande hâte, en périphérie urbaine, les grands ensembles. Les Britanniques ont échappé, je dois le dire, à cette mode. Ils avaient aussi des problèmes de logement, mais ils ont eu la prudence de ne pas systématiquement développer de nouveaux quartiers à l'époque en pleine campagne, dans des champs de betteraves, comme l'on disait. Et donc la France est un peu unique en Europe. Et d'un côté, les gouvernements français ont une intention permanente de maintenir un fort parc de logement social, bon, ce qui est sans doute légitime. C'est comparable avec ce qui se passe en Grande-Bretagne. Mais il faut toujours quand même noter que dans les pays du Sud, en Italie, en Espagne par exemple, le logement social gouvernemental est pratiquement inexistant. La majorité des Italiens et des Espagnols sont propriétaires de leur logement. Alors c'est un autre problème peut-être, mais qui est annexé à la politique de la ville en France. De savoir, est-ce qu'on va développer l'accession au logement ?
Alors ça, c'est aujourd'hui. Mais revenons-en au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50, dans les années 60, où il y a eu cette politique très volontariste de construire du logement en masse. Pourquoi cette spécificité française ? Qu'est-ce qui a fait qu'en France, on a pris cette voie-là ?
Les architectes urbanistes français des années 50 étaient plus ou moins inspirés par les modèles soviétiques. Il fallait de l'habitat collectif massif, des grands immeubles, et on a par conséquent procédé en un premier temps à ces réalisations. On a logé des ruraux ou des citadins qui cherchaient des logements, mais très vite, ces populations qui appartenaient à des petites classes moyennes se sont enrichies en faveur de la période des Trente Glorieuses. Ils sont partis achetant à crédit, en général, des maisons individuelles en périurbain ou dans le rural, et les vides ont été peu à peu comblés par des populations beaucoup plus modestes, souvent venues de l'étranger, et par conséquent, la question de la politique de la ville donc, est devenue un problème d'intégration économique, voire sociale, culturelle, dans lequel on n'a pas encore trouvé de véritable réponse.
Peace, yo, and welcome to Jazzmatazz, an experimental fusion of hip-hop and live jazz. I'm your host, The Guru. That stands for Gifted Unlimited Rhymes Universal.
Il faut également dire que pour ces populations qui ont investi ces villes dans les années 50-60, donc des populations qui étaient souvent ouvrières pour certaines, ces logements à l'époque représentaient un espoir, en tout cas une possibilité d'avoir un certain confort.
Oui, incontestablement, pour beaucoup de ces nouveaux venus, soit français, venant de la campagne, c'était un grand progrès d'avoir une salle de bain, par exemple une salle d'eau. Bon. Mais même progrès pour les habitants venus en particulier du Maghreb, puisque c'est la grande époque où l'industrie automobile a besoin de main-d'œuvre autour de Paris, autour de Lyon, et où on fait venir donc des travailleurs maghrébins qui peu à peu viennent avec leur famille dans ces logements.
Et là, lorsqu'on parle de politique de la ville, dans ces années-là, on pense essentiellement à la ville, mais aussi la périphérie de la ville, parce qu'il y a la ville centralisée en tant que centre qui concentre à la fois les pôles économiques, mais aussi les pôles politiques. Mais là, en l'occurrence, on parle d'un développement aux périphéries des villes.
Oui, l'erreur sans doute que l'on constate a posteriori, l'erreur des architectes urbanistes des années 50, 60, lorsqu'on a fait ces grands ensembles périphériques, c'est de ne pas avoir associé ces logements, ces masses de logements, avec des emplois. Oui, alors là, j'insiste quand même, beaucoup de commentateurs de la politique de la ville parle de banlieue, on parle de plan banlieue, de crise de banlieue. En majorité, les banlieues françaises, c'est-à-dire ce qu'on appelle en géographie l'espace suburbain et périurbain, c'est 29 millions d'habitants. Et les grands ensembles et les quartiers qui posent des problèmes parfois d'insécurité ne sont qu'une minorité. c'est pas parce qu'il y a de temps en temps des crises, des événements, que toutes les banlieues sont à feu et à sang. Il y a un archipel de quartiers en difficulté, mais ça n'est que 4 ou 5 millions d'habitants, grand maximum, et encore, tous ces 4 ou 5 millions d'habitants sont loin d'être des gens entraînés par des accès de difficultés ou prêts à exploser de temps en temps avec les forces de l'ordre.
Mais lorsque vous dites cela a peut-être été une erreur politique de développer cette forme d'urbain ou d'urbanité.
Bien, il y avait deux choix, ou bien créer ces grands ensembles uniquement monofonctionnels pour le logement. Il y avait une autre réponse possible, c'était comme en Grande-Bretagne, de faire des villes nouvelles, beaucoup plus équilibrées, avec autant d'emplois que de personnes actives, logées. On a donc fait 4 villes nouvelles autour de Paris. On a essayé d'en faire une près de Lyon, qui n'a pas très bien réussi. Mais il est probable qu'il aurait été préférable, à mon sens, de faire peut-être une ou deux villes nouvelles supplémentaires, mais aussi d'éviter cette concentration de population nouvelle dans Paris et autour de Paris, et qu'il aurait été peut-être plus sage de développer les villes de province, les grandes villes de province. On y pensera en 1963, lorsque la DATAR va lancer la politique des métropoles d'équilibre, puis quelques années plus tard, la politique des villes moyennes.
Intéressant ici, Claude Chaline, c'est que vous mettez la place des politiques de la ville dans un ensemble qui est beaucoup plus important, dans celui finalement de l'aménagement du territoire. On ne peut pas penser le développement des villes aujourd'hui en termes concentrés, je dirais, mais il faut forcément le percevoir dans un système qui est beaucoup plus important, qui est celui de l'aménagement du territoire.
Oui, oui, absolument. D'ailleurs, actuellement, la population du Grand Paris n'augmente plus aussi vite que la moyenne nationale. Les comportements de la société française évoluent. Le mythe de l'attraction parisienne peu à peu faiblit. Et en fait, les taux maximum de croissance sont maintenant plutôt dans des villes moyennes ou sur le littoral. Ce qui pose d'ailleurs d'autres problèmes d'aménagement.
Claude Chaline, dans les années 70, on voit une mutation de ces villes pour rentrer dans une problématique complexe, sachant que c'est dans ces poches que l'on appelle banlieue, que l'on appelle zone suburbaine ou périurbaine. Comment se fait cette mutation d'un territoire qui finalement correspondait à une utopie d'habitat à un problème?
Oui, alors, il y a eu, comme je le disais tout à l'heure, un renouvellement progressif au cours des années 60-70. Les populations initiales qui s'étaient installées dans ces grands ensembles périphériques sont parties et elles ont été remplacées par des populations beaucoup plus modestes, françaises ou d'origine étrangère, qui ont beaucoup de difficultés à assumer leur loyer, avec ce problème particulier de la copropriété, car ça n'est pas toujours l'État qui avait construit ces grands ensembles à partir du budget public. Il y avait eu énormément d'investissements sous forme collective, c'est-à-dire beaucoup de ces nouveaux venus avaient acheté leur appartement, et ces immeubles en copropriété, lorsqu'ils passent à des populations à faible revenu, sinon démunis, en chômage, ces copropriétés cessent d'être entretenues, et un des grands volets de la politique de la ville, piloté par l'État, c'est peu à peu de racheter ces copropriétés pour assurer la maintenance et éviter la dégradation progressive des ascenseurs, des réseaux, des façades et de toutes les commodités que l'on attend d'une vie normale en milieu urbain.
Mais si aujourd'hui il y a pléthore, je dirais même un florilège de textes, de lois concernant les politiques de la ville, qu'en est-il dans les années 70 ? On a l'impression que les villes se développent. Bon, il y a certes des schémas d'aménagement urbain, en tout cas des schémas directeurs qui permettent la construction de certaines cités, de certains habitats, mais en tout cas, il n'y a pas une prise en compte immédiate des problèmes que ces concentrations de logements et d'habitants peuvent générer par le politique.
Ces concentrations, disons que géographiquement, elles sont très très spécifiques. Les problèmes de la politique de la ville, ils ne sont pas étalés sur tout le territoire français. Et actuellement, donc, les gouvernements successifs ont essayé de cadrer territorialement les quartiers dits en difficulté, où habitent en majorité des populations fragilisées. Et c'est ce qu'on appelle les zones urbaines sensibles, ZUS. Il y en a 751, oui, en France métropolitaine. Il y en a quelques-unes en Guyane et dans les Caraïbes. Mais et autant que l'on puisse savoir, parce que les statistiques démographiques sont très difficiles à être précises, mais c'est à peu près un peu plus de 4 millions de personnes dans ces zones urbaines sensibles. Alors, ce que l'on essaye de faire maintenant, c'est de corriger ce qui a manqué dès le départ dans ces grands ensembles, dans ces quartiers périphériques, c'est d'apporter autant que possible des emplois, parce que les équipements existent. Il y a des commerces, il y a des postes, il y a des écoles, mais c'est l'emploi, car pour certains, si l'on arrivait à offrir un emploi à tous les habitants, en particulier les jeunes, puisqu'on estime que 30% de la population de ces zones urbaines sensibles sont des jeunes de moins de 20 ans, frappés par le chômage, mais le chômage des jeunes en ce moment est universel en France, quels que soient les milieux sociaux considérés. Les zones franches, c'est un territoire délimité par la puissance publique, en général l'État en France. Il y en a une centaine en France. La plupart sont localisés dans ces zones urbaines sensibles, frappées par un taux de chômage supérieur à la moyenne. Et idéalement, on souhaite que les entreprises qui vont venir profitant de subventions, d'avantages sur les diverses taxes prévues sur les entreprises, on espère que la majorité des emplois seront assumés par les populations locales. Mais le gros problème, on le constate par exemple à Lyon, à la Duchère, où il y a ce cas, mais c'est d'une manière générale, les employeurs souhaitent recruter des jeunes relativement qualifiés et il se trouve que beaucoup de jeunes de ces quartiers en difficulté n'ont pas atteint, ne dispose pas des qualifications nécessaires. Alors on est renvoyé là à un problème extrêmement délicat de l'absentéisme scolaire, du désintérêt que certains jeunes adolescents éprouvent pour l'école républicaine qui avait formé des générations dans le temps passé.
Alors justement, pourquoi ça ne marche pas ? Parce que vous avez dit que dans les cités, dans les banlieues, dans les zones périphériques des grandes villes, il y a certes des équipements, il y a l'école, il y a la poste, il y a des magasins. Et pourtant, les personnes qui vivent dans ces quartiers se sentent, allez, j'ose le terme, mais reléguées. En tout cas, en marge de la société, du fonctionnement de la société.
Bon. Certes, beaucoup de jeunes disent les parents sont en chômage, alors nous le serons aussi, c'est pas la peine de faire des études. Bon, c'est un peu court, puisque on essaye avec un certain succès, de recruter, de distinguer les élèves dans les collèges, les lycées, les élèves les plus performants, et on les dirige, par exemple, vers Sciences Po, actuellement, Sciences Po recrutement, vers quelques grandes écoles, où ils réussissent tout aussi bien que les autres. Donc, une minorité peuvent intégrer la vie professionnelle par l'accès aux classes supérieures et aux grandes écoles. Il y a une autre formule qui fonctionne énormément aux États-Unis dans les quartiers en difficulté, où il y a une masse de latinos ou d'asiatiques. Ce sont toutes les innovations locales, les uns dans le design, les autres dans la chanson, les autres dans toutes sortes d'activités spontanées souvent. Mais est-ce que cela peut régler le problème de ces cités? Je ne pense pas, car il y a le troisième fléau de ces quartiers en difficulté, c'est tout le travail clandestin, le trafic de drogue dont tout le monde parle.
Fin de ce premier volet de l'interview que nous a consacré Claude Chaline, professeur émérite à l'Institut d'urbanisme de Paris et auteur au PUF de « Les politiques de la ville » dans la collection Que sais-je.
C'est toujours l'émission EPRA sur Divergence FM. Vous venez de suivre un entretien de Jean-Louis Riwal de Radio Oxygène, donc avec Claude Chaline, spécialiste des politiques de la ville. Avant de retrouver un sujet préparé par Radio Grille Ouverte, nous allons écouter un extrait du dernier album de Bonobo.
Nothing's
Andrea Triana, qui est mise en musique par Bonobo avec ce titre The Keeper, extrait du dernier album de Bonobo. Bonobo qui est aussi l'artiste dont je me suis servi pour faire le générique de cette émission EPRA qui se poursuit donc avec un sujet sur les gitans dans la société française, le sort qui leur a été réservé depuis au moins le XXe siècle, avec notamment en 45 ces gitans qui ont été mis dans des camps alors qu'on a pas de concentration, mais ça y ressemblait. En tout cas, ils étaient concentrés dans ces camps. C'était le thème aussi d'un film de Tony Gatliffe qui était sorti fin février. Ça s'appelait Liberté. C'était un film plutôt bien fichu avec James Tirrey notamment, qui jouait un rôle impressionnant, celui de Taloche. James Tirrey, qui est le petit-fils de Charlie Chaplin, et donc immense succès pour ce film Liberté. Alors il se trouve que Tony Gatliffe était aussi l'invité du festival Itinérance à Alès, qui avait pour thème ce festival l'errance. Non, moi je dis l'errance, mais c'est le nomadisme, voilà. Enfin peu importe. En tout cas, ce sont à peu près les mêmes thèmes. Et donc, ils ont fait une petite table ronde avec Tony Gatliffe et puis d'autres invités. Et Cathy Rouvérol et Yves Defago de Radio Grille Ouverte ont eu la bonne idée d'enregistrer tout cela. Et ils nous font partager ce moment. On écoute.
Le festival cinéma Itinérance d'Alès dans le Gard a choisi comme thème le nomadisme. Alès compte une importante communauté gitane qui se revendique française depuis plus de 400 ans. Suite pour cette deuxième partie de la rencontre avec Tony Gatliffe, réalisateur du film Liberté, et d'Esmeralda Romanes de l'association LAMID, l'association pour la mémoire de l'internement et de la déportation du peuple gitan. Luis Ruiz, écrivain, photographe, slameur de la communauté gitane alésienne, les a rejoints. Tony Gatliffe.
Moi, je suis un poète, artiste, mais je suis aussi de parti pris. Tu parles. Moi, je suis. Moi, je suis. Moi, il me faut. S'il faut partir en guerre demain, j'irai demain, mais sans tuer personne, mais j'irai. Ça fait 30 ans que je plante le clou. Et ça, je vous assure que quand j'ai commencé en 81, ils me disaient, mais les gitans viennent de Bohème. Je leur disais, toute la population française. Quand je présentais le film dans les campagnes, ils me disaient, même des journalistes, ils me disaient, mais ils viennent de Bohème. Je leur disais, mais attendez, moi j'ai fait des études un tout petit peu, j'ai peut-être très élevé, mais quand même, et je sais où se trouve la Bohème. Vous savez où se trouve la Bohème?
Oui.
Alors, je dis non. Mais oui, les gitans ne viennent pas de Tchéquie. T'as qu'à voir Payou pour voir qu'il ne vient pas de Tchéquie. Il ne vient pas de Tchéquie, lui. Donc voilà. Et donc, mon rôle, c'est celui de. C'est presque le porte-parole, je dirais. Le porte-parole avant que les protagonistes qui s'appellent ceux qui vivent sur le terrain aient la parole. C'est-à-dire, moi je porte la parole et je la redonne et pour que eux après l'apprennent. Parce que quand on fait un film, après le film, il ne m'appartient plus. Il appartient, c'est à eux qui le prennent. C'est ce que j'ai dit à tout le monde, ce que je dis à mes copains, Manu Zika, je dis, vous prenez le film, vous faites, vous, des projections dans les villes et vous racontez ce que vous voulez, vous. Et à un moment, parce que le film, il faut qu'il appartienne à tout le monde. C'est juste ça.
Moi, je voudrais être un petit peu plus dur que Tony, parce que Tony a raison quand il dit qu'il travaille pour demain et pour les générations à venir. Mais quand même, moi, j'interpelle le gouvernement. Et je dis au gouvernement, quand est-ce que vous allez reconnaître votre implication directe dans l'internement et la déportation, qui a été niée longtemps quand même, depuis le sol français. Moi, j'ai un papa qui a défendu la guerre, qui a défendu la France, pardon, qui a été fait prisonnier de guerre. Il a été mis en stalag, avec ses copains militaires. Et puis de là, il a été pêché comme tzigane et mis en camp d'extermination. Par chance, il s'est sauvé, il est revenu en France. Eh bien, en France, on l'a interné. Merci d'avoir défendu le drapeau français. J'ai fait deux fois de la prison. Vous savez pourquoi ? Parce que mes fils ne voulaient pas faire le service militaire. Donc évidemment, je les ai cachés. Entrave à la justice, deux fois de la prison. Où sont mes droits de citoyen français ? Quand vous me dites, êtes-vous française ? Non, je suis moins en hausse. Je suis pas française. Personne me veut comme française. Moi, je suis manouche parce que dans le ventre de ma mère, je le savais, j'étais habituée au bruit des sabots, au roulement des roues, de la roulotte. Moi, j'ai roulé 46 ans en roulotte hippomobile, hein, quand même. J'ai élevé 7 enfants sur le voyage. Je sais que je suis manouche depuis que je suis dans le ventre de ma mère. Quand j'ai poussé mon premier cri pour développer les poumons, je crois que j'ai crié, je suis manouche. Bah, je suis française. C'est pas possible, on me veut pas en France. Eh bien, c'est pas grave. Mais qu'on accepte quand même que depuis 1500, le 15e siècle, on est en France. Parce que moi, je connais des personnes très importantes en France. Elles ne sont pas là depuis les années 1400 et quelque chose. Elles ne sont pas là depuis le 15e siècle. Et pourtant, elles ont la carte d'identité française, ces personnes-là.
Les gens me regardent, les mots sortent de leur bouche comme des couteaux. Je passe mon temps à rêver, à courir à travers champs. Et j'ai envie de voir ta couleur, de prendre ta main, d'aimer ton odeur. La fièvre coule dans mes veines, c'est la fièvre de mon père et de ma mère. Elle me remplit du bruit des miens. Parce que je suis gitan. La rumeur court dans les villes. Les gitans ont volé. La lumière accroche mes cheveux noirs. Elle reflète ma différence. Mes yeux brillent comme le charbon dans le feu. Parce que je suis gitan. J'ai envie de parler, de crier, de hurler, de frapper personne. Et j'ai envie de vous dire, je suis comme vous, comme toi, parce que moi je suis gitan. Je traîne avec moi le boulet de l'ignorance. Il s'est accroché un jour de méfiance. Un jour où nous étions trop nombreux, trop vivants, trop gitans.
Si vous connaissez Tony et Louis, Louis est alésien, il fait partie de la communauté gitane alésienne, il est écrivain, il est slameur. Et Louis, je ne sais pas si vous vous rappelez, on s'est rencontrés la première fois il y a une dizaine d'années. Vous êtes venu me voir à la radio et vous m'avez dit « je voudrais faire quelque chose autour de la déportation des gitans ». Vous vous en souvenez? Alors, est-ce qu'à cette époque-là, dans votre communauté, on en parlait? Est-ce que vous, en tant que jeune, je ne sais pas quel âge vous aviez à cette époque-là, il y a 10 ans à peu près
tout juste une vingtaine d'années. Mais c'est vrai qu'on commençait à en parler. Moi, à 20 ans, c'est vrai qu'on ne se pose pas ce genre de questions. La déportation de nos familles, de nos... Et j'avais entendu, j'avais des échos que sur Arles, il y avait un camp des Saliers. Donc moi, je suis originaire d'Arles. Et ça quelque part, ça m'a interpellé. Je dis comment, quelque part, il y a eu un camp de gitans nomades, au Salier, Terre Sainte, pour les pèlerinages gitans, il n'en parle même pas une stèle. Je dis, c'est pas possible. Je dis, pourquoi? On en parle pour nos frères juifs. On en parle encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on vient de sortir la rafle. Très bien. Chapeau. Mais quelque part, je me dis, je veux pas dire plus de juifs ou plus de gitans. C'est pas ça le but. Le but, c'est de reconnaître et Tony Galtif, il a très bien fait. Moi, je trouve dommage qu'on sorte ce film La Rafle en même temps que Liberté. Moi, c'est mon point de vue. Je le dis, je le pense. C'est mon point de vue. Maintenant, c'est vrai qu'à cette époque-là, je me posais de tas de questions. Et j'avais cette idée de faire mon film, de faire un peu ma liste de Schindler, vous savez, ce film, ce grand film-là. Je rêve encore. Et Tony, aujourd'hui, il l'a fait, il a soulevé ce couvercle un peu, ce couvercle de la honte, et tu l'as soulevé, c'est important.
Un peu.
C'est important. Mm-hmm. Tu l'as soulevé, et je crois que, au moment que tu l'as soulevé, Tony, eh bien, nous, il faut qu'on s'en serve. Tu as très bien dit, il faut qu'on se serve de ce film, il faut qu'on se serve de cette force-là, à travers Tony. Il faut savoir que, comme dit Tony, il y a des écrivains, moi j'en fais partie, je crois que la communauté gitane commence un peu à surgir. Il y a des photographes, il y a des sculpteurs. Et tout ça, je crois que ça fait avancer le peuple. Quand je dis le peuple, je parle des Manous, je parle des Gitans catalans, espagnols, Sinti. Moi, je parle du peuple. Je parle, j'aime pas dire les gens du voyage. C'est plus grave.
C'est politique. C'est une appellation politique qui ne veut rien dire. Gens du voyage, vous êtes gens du voyage. Ouais. Vous êtes venus vers nous.
Ouais.
Qu'est-ce que veut dire? Alors, vous lisez tous les jours dans les articles de presse, les gens du voyage sédentaires. Ça, c'est voulu. C'est un amalgame. Mais mieux, j'ai entre les mains un DVD qui a été projeté en Suisse, qui a été tourné par... c'est une production américaine qui vit à Paris, et ça a été tourné en Suisse. Donc, des gens du voyage. Et ils ont tourné dans des camps de Roms migrants en Suisse. Et vous entendez sans arrêt les reporters dire... Ces gens du voyage. Non, stop. Les Roms, mais depuis Catherine de Russie, ils ont acquis cette sédentarisation. Arrêtez, c'est pas des gens du voyage.
C'est pour les désigner.
Et on n'est pas des gens. Moi, j'ai voyagé 46 ans. Jamais mon père, il m'a dit, on est des gens du voyage. Mon père, il me dit, on est des moinouches. Laissez-nous nous appeler comme on en a envie. Voilà, tant que vous ne nous dites pas, voilà, vous avez vos droits de citoyen complets. Vous faites vraiment partie du peuple français. Eh bien, on est des Moinouches, on est des Calais, on est des Sinti.
C'est important aussi de reconnaître, je crois que... comme je dis, moi, je dis souvent et je le répète, on a la chance de vivre dans un pays extraordinaire. Genre, la France, c'est un pays extraordinaire. Et c'est vrai, comme tu dis, Smeralda, c'est vrai que... Moi, on me reconnaît tant que... Parfois, tant que gitan, petit gitan, quand ça arrange, et parfois comme bon français, quand ça arrange aussi. Mais peu importe. Moi, si vous me baladez un jour avec le franc marqué gitan, je le ferai. Et au contraire, il n'y a pas de souci. Mais je crois qu'il faut mettre nos enfants à l'école. C'est très, très important. Être citoyen français, je crois que c'est la base. C'est la base de notre survie. Moi, je le pense. Du peuple, c'est la base. Il faut être citoyen. Il faut s'impliquer dans notre pays. Il faut soulever ce pays. Quand je dis soulever, bien sûr, c'est de le faire réagir. Et en le faisant réagir, il va nous... Comment dire, nous... Il va dire, c'est vrai, ça existe. Oh là! Il y a des films qui se font. Il y a des écrivains gitans. Il y a des maçons gitans. Où est-ce que je veux dire? Il y a des pompiers gitans. Si on s'implique dans la France, si on soulève la France va nous reconnaître. Elle va reconnaître notre différence. Et je crois que ça, pour moi, je pense que c'est le plus important. Reconnaître notre différence. Tout en étant citoyen français.
On a toujours travaillé, il le disait tout à l'heure, Tony. Hein, on est des vaillants, on est des courageux, nous, quand même. On a toujours travaillé, sinon l'économie de la cellule familiale, elle ne peut pas fonctionner. Hein. Donc il y a toujours eu le travail. On nous a jamais reconnus pour autant, on nous a toujours traités de voleurs. Bon, je vois, on va quitter notre communauté pour aborder les autres communautés. C'est pareil, du moment que tu es perçu comme un étranger en France, eh bien tu es rejeté. Tu n'es pas français, voilà. Autant pour les Maghrébins, autant pour les Africains, autant... C'est comme ça. Donc nous, notre façon de nous en sortir, c'est de ne plus fonctionner uniquement entre nous, mais avec toutes les communautés minoritaires. Voilà, c'est ça notre... Pour moi, je pense réellement, j'ai 61 ans aujourd'hui, je pense réellement que notre salut, il est là-dedans, dans la solidarité entre communautés minoritaires. Et pour dire aux Français qui nous jugent si sévèrement, mais attends, on est comme nous, comme vous. On n'a pas inventé la bombe atomique, on n'a pas inventé les armes de destruction massive. On déloge pas les gens d'un territoire pour leur piquer leurs richesses. On n'a pas écroulé l'économie mondiale.
Et on n'a pas fait la pollution.
Et on pollue pas. Exactement. J'ai roulé 46 ans avec mon cheval, garçon.
Alors que la guerre, le nouveau malheur qui risque de nous frapper dans les futures années, c'est la pollution. Elle va être beaucoup plus grave que la guerre.
Tony Gatliff, une question à propos de votre film et à propos de ce que vient de dire Esmeralda Romanes. Elle vient de parler de solidarité avec les autres communautés. Votre film a des répercussions à aujourd'hui. Vous parlez de la guerre, vous parlez de des gitans mis de côté, enfermés. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes, il y a d'autres communautés qui sont enfermées également dans des centres de rétention.
Le film, il se passe en 1943. Il commence en 1943. Mais en même temps, il fait écho à aujourd'hui. Il ne peut pas ne pas faire écho à aujourd'hui. Parce qu'il se passe la même chose. Les manouches vous disent... Et quand j'ai projeté partout le film, en France, il y a les manouches qui viennent au cinéma. Hein. Là, les manouches sont au premier rang. Et ils disent, nous nous faisons réveiller avec nos caravanes à 5 heures du matin, comme dans le film encore aujourd'hui, pour nous demander nos carnets de circulation, avec carnet de nomade. Il y a la même chose, ça se passe exactement la même chose. Et ce qui est encore plus grave, c'est pour ça que je l'ai fait rapidement, le film, avant que ça dégénère, ce qui est encore plus grave, ce qui est les gens responsables, des politiques qui sont là pour gérer le pays, qui sont là pour donner une grandeur du pays, la France. Ces politiques-là, je peux les citer, si un jour on me le demande, je le ferai. On me le demande de force. Et donc ces politiques-là parlent aujourd'hui, en parlant des manouches, en disant, c'est récent, il n'y a pas longtemps, à l'Assemblée nationale, en disant, c'est un véritable fléau. Ils disaient, les gitans, ce monsieur-là qui était maire, je crois, qui s'exprimait à l'Assemblée nationale, il disait, alors je vous le dis, moi, dans ma commune, il y a des manouches qui viennent, ils sont là, il a dit des horreurs, avant, et il dit, ils sont là, et je peux vous le dire, moi, mesdames et messieurs, c'est un véritable fléau. Voilà. Quand t'entends ça, tu vois tout de suite la croix gammée. Mmh. Voilà. Et donc ça veut dire, on n'est pas encore du temps d'avoir des camps de concentration, c'est pas ça encore. Mais il faut alerter que ça rappelle les années 40.
Mmh. Parce que je suis gitan, je suis libre, le vin aussi, mais moi, je suis prisonnier de vos paroles. De vos clichés, les murmures rôdent autour de moi, comme autant de vautours guettant leur proie malade, mais pas tout à fait morte. Je mérite la gloire, les rêves, la couleur de l'amour et la lumière de l'espoir. Et qui parlent comme des livres, même les dates les plus sombres de notre histoire restent muettes. Nous avons toujours les mêmes rôles au cinéma. Sommes-nous condamnés à vivre dans l'ignorance, là où dans un monde la réussite compte plus que tout? Parce que je suis gitan, on nous chasse, on nous expulse, on nous condamne à vivre sans papier. Avançons aux côtés de grands peuples qui ont trouvé leur chemin, tout simplement parce que nous sommes.
Je pense que Tony aussi, il fait passer un message à travers ses films, que ce soit Liberté ou les autres. Il fait passer un message. Moi, je veux dire que ceux qui n'arrivent pas à comprendre le message de Tony, c'est grave. Oui. C'est un appel à l'humanité. Oui. C'est débrancher votre cerveau et vivez avec votre cœur. Parce que si on vit avec notre cœur et qu'on ne vit plus avec le cerveau, qu'on ne compte plus, qu'il n'y a plus de possession, qu'il n'y a plus les sous, qu'il n'y a plus la hiérarchie, la course au pouvoir, on est tous frères. on va plus se battre.
Et c'est toute la poésie, des, par exemple, du personnage de Taloche, merveilleusement interprété justement par James Thierry dans le film Liberté, qui est le personnage, je pense, qui vous représente le mieux, Tony Gatliff. Il n'est pas d'origine tzigane, mais qui représente parfaitement peut-être ce que vous avez voulu faire passer.
Il est tzigane. Il est tzigane parce que c'est le petit-fils de Chaplin, Charlie Chaplin, et Charlie Chaplin, sa mère, est gypsy. Et c'est dans les mémoires de Charlie Chaplin qu'il le dit. Donc, il est tzigane. Voilà. Donc, je ne l'ai pas dit tout le temps parce que je ne voulais pas. Parce que, comme lui ne l'a pas dit, moi, je le dis. Et le personnage de Taloche, c'est un personnage qui exprime la liberté par lui-même. C'est pour ça qu'il boue, c'est pour ça qu'il saute partout. Et quand, à la fin, il est tué, parce qu'on tue la liberté. On ne tue pas l'être humain. On tue la liberté en le tuant. Et la liberté, c'est Zian, c'est Gitan, c'est Manouche, c'est Cindy, c'est Yenish.
Rome, Manouche, Cindy, Gitan. Pour les gâteaux, tu restes anonyme, sauf quand tu tiens ta guitare. Je suis comme ça.
Bon, je crois qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre, Tony Gatliff.
Non, mais je pense que vous avez quelque chose de très très fort dans votre émission, je ne sais pas où elle va passer. Je pense que vous avez un témoignage très très fort. Prenez-en soin, passez-le bien quelque part, là où il y a beaucoup de gens qui l'entendent. Et je pense que c'est très très beau ce que vous venez d'avoir.
Modeste avec ça, le Tony Gatliff, donc, qui n'hésite pas à raconter la fin de ses films. Ça, c'était assez étonnant aussi. Voilà donc un document qui nous a été donné donc par Radio Grille Ouverte à Alès. Alors, petite précision hein, sur ces camps d'internement des Tziganes lors de l'occupation. Au départ, on pensait qu'il y avait plus de 30 000 de ces Tziganes qui avaient été internés. Alors, il semblerait que les chiffres soient remis en cause, hein, sans faire de révisionnisme, mais qu'on serait, qu'il y en aurait à peu près 6 fois moins. Voilà. Mais ce qu'on peut noter, en tout cas, c'est que, eh bien, ils ont bien été internés pour une large partie et qu'ils sont restés dans ces camps après la libération. Ce qui est encore plus étonnant, ils ont été tout simplement les derniers à quitter ces camps qui servaient aussi à interner ceux qui avaient fait du marché noir, quelques communistes et j'en passe. Voilà, donc c'est presque terminé hein, pour l'émission EPRA. Avant d'achever cette émission, on va écouter un petit extrait du dernier album des Coco Rosy, les deux sœurs, qui seront en concert au Théâtre de la Mer. Ce sera un des premiers concerts du Théâtre de la Mer.
Kiss the lips of lady twins, or something by a slew of sighs.
guys, handing out right to the blasphemous night. A wolf in the garden, why do you linger so long? A silky snail, so is it me?
Voilà, donc c'était un extrait du dernier album de Coco Rosy, album qui est sorti, je crois, c'était le 3 mai, donc il y a pile une semaine. Vous écoutiez l'émission EPRA, émission hebdomadaire sur Divergence FM, une émission qui vous est présentée par Vincent Pourageau. Et à la technique aujourd'hui, eh bien, c'était Manu, un peu comme toutes les semaines d'ailleurs. Donc, eh bien, on passe une bonne semaine et puis on se retrouve la semaine prochaine à nouveau avec des documentaires et des reportages.